c'est pas réservé aux moines, c'est réservé à chacun d'entre nous, absolument à chacun d'entre nous. C'est le but de la vie divine, de la vie chrétienne, que nous soyons unis à Dieu. Donc, l'intérêt de cette conférence, c'est de nous donner, je dirais, justement, des arguments pratiques. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a pas terminé, avant les questions, c'est non pas de faire un digest du résumé, mais de nous dire maintenant, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, voilà comment... Je ne te fais pas recommencer, mais peut-être les principales étapes du chemin... qui est le chemin que nous sommes tous appelés à parcourir. Parce que, encore une fois, il n'y a pas une élite et le reste, et la masse reste dans son coin. On n'a pas le choix. On est appelé à entrer en union avec le Seigneur. C'est ce qui... Le Seigneur, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est cette phrase tellement connue et qui traverse les 2000 ans de christianisme, qui est répétée comme un leitmotiv sous les formes différentes. Comment pouvons-nous devenir Dieu? Grégoire Palamas nous donne une réponse. Et j'aimerais là que tu nous dises à chacun d'entre nous, pour ceux qui l'ont jamais connu, qui n'ont jamais entendu parler, ou simplement qui ont entendu ce nom, voilà comment on peut commencer. Pourquoi? Pour qu'on se mette au travail tout à l'heure, et que aussi et tu en as parlé toi-même, on commence à découvrir les écrits du Saint, d'abord par ses homélies.
Il y a un épisode dans la vie de Saint Grégoire Palamas qui est très parlant pour ces questions, comment appliquer les choses aujourd'hui. Saint Grégoire Palamas, il était jeune moine au Mont Athos. Il avait à côté de sa coliba, sa petite cellule, il avait un autre moine très âgé, Yov. Il s'appelait Yov, et très très avancé dans ses démarches spirituelles ici Hast. Il avait un conflit entre Yov et Saint Grégoire Palamas, parce que Yov, il ne pouvait pas être d'accord avec les propos de Saint Grégoire Palamas qui disait que la voie ici Hast est ouverte en même temps aux moines et aux laïcs. Et Yov s'est énervé, il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il veut ce Grégoire? Il nous dit, voilà, que les laïcs peuvent avoir le même trajet que nous. C'est pas possible parce que c'est pas possible. Et il semble que ce moine Yov a eu un rêve, un songe, une vision où c'est quelqu'un qui se montre à lui qui dit, voilà, arrête de critiquer Grégoire parce que ce qu'il dit, c'est la vérité, que tout le monde puisse passer sur ce chemin. Yov, qui était en conflit avec le jeune moine Grégoire, voilà, il tombe devant Grégoire, il dit, voilà Grégoire, j'étais contredit parce que je croyais que c'est que les moines qui puissent avoir cette expérience de la grâce de Dieu, mais maintenant je me rends compte que tu as raison et que cette voie est ouverte à tous. Voilà, c'est un épisode qui pour moi est très parlant pour l'enjeu pastoral d'aujourd'hui. Donc, depuis le début, sachez que les grands-pères ici Hast n'ont pas fermé cette voie de connaissance directe de l'union avec Dieu à ceux qui ne sont pas des moines. Donc tout d'abord, le premier principe. Le deuxième principe, pour ça j'ai commencé ma présentation avec des choses pratiques. La voie pratique, elle est ouverte à tous. L'accomplissement des vertus, l'accomplissement des commandements, elle n'est pas une voie qui est exclusivement pour les moines. Mais c'est un peu plutôt pour les laïcs, commencer avec des choses basiques. Il insiste, Saint Grégoire Palamas, avec des choses basiques. Mais c'est une tromperie de croire qu'on puisse arriver, une tromperie pour les moines et pour la laïque aussi, de croire qu'ils peuvent arriver à une hauteur d'une expérience ici Hast sans commencer avec des choses basiques. Voilà, quelles sont les choses basiques? Aimer le proche, entrer dans l'univers de l'évangile, par exemple l'évangile, parce que nous parlons de l'évangile, j'étais assassiné pendant que j'ai fait ma thèse par la légérité avec laquelle Saint Grégoire Palamas bouger par les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc dans ces homélies qui étaient faites devant des fidèles qui n'avaient pas un grand diplôme académique théologique. Donc ils jonglaient avec des textes de l'Évangile d'une manière presque comme chez nos frères néo-protestants aujourd'hui. Que c'est le livre de Genèse qui a dit ça, que c'est le livre de je ne sais pas qu'est-ce qu'a dit l'autre, que c'est le Deutéronome qui a dit ça, que c'est l'Isaïe qui a dit l'autre, comme ça. Vraiment, je me sentis assassiné, mais dans le bon sens du terme. Et tout ça, tous ces discours devant des fidèles, que je répète, n'avaient pas une hauteur dans leur démarche spirituelle. Je vous rappelle les épisodes des luttes avec des choses basiques. Voilà, la silence dans l'église ou kamata, comment ça s'appelle ça ?
Les usuriers.
Kamata.
L'usure.
Ou des choses qui touchaient la vie quotidienne de chacun. Il dit, écartez-vous de ça et vous allez faire encore un pas. Lisez un peu plus la Sainte Écriture, l'Évangile, parce que c'est le miel qui picoure,
qui tombe goutte à goutte
le miel dans nos pensées. Voilà, adonnez-vous à lire l'Évangile, aimez votre proche, écartez-vous de desfrenar et de je sais pas quoi, comment, de débauche, écartez-vous de mensonges, abstenez-vous de voler, venez plus souvent à l'église. Il y a un conseil dans une de ces homélies, voilà, vous ne pouvez pas faire chez vous, il faut vous rapporter toujours aux prêtres et aux évêques. Il y a une homélie où il insiste sur ce rapport de l'homme, de laïc, avec la confession. Il insiste beaucoup, confessez-vous, parce que c'est seulement par la confession que vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui... Donc voilà des choses basiques qui semble beaucoup au conseil de Saint Jean Chrysostome, par exemple. Saint Jean Chrysostome, il ne faisait pas la grande théologie avec ses fidèles. Il marchait sur des choses très, très concrètes, qui tiennent de la vie quotidienne. Mais il insiste, si vous faites ça, vous allez vous approcher de la voie céleste. Si vous continuez et si vous persévérez dans cet écartement de péché, vous allez avancer. Et qu'est-ce qu'il dit toujours? Il finit toujours ses homélies, un peu rhétorique, mais ça parle aussi, que nous nous trouvions par ça dans le royaume de Dieu. Soit que vos actes puissent vous amener dans le royaume, puissent vous amener à goûter la grâce. Toujours, il finit tous ses homélies avec ça. Soit que vos actes, soit que votre écartement du péché vous introduit dans ce monde de grâce. Donc voilà comment est-ce que je répondrai à cette question. Des conseils très basiques, complétés avec la... comment s'appelle ça, qu'on donne aux enfants des bonbons, la récompense des perspectives plus hautes. Mais avec ses fidèles, il ne parlait pas des choses très hautes. Il commençait toujours aux choses basiques. Donc c'est à nous de faire la même démarche avec les gens qui ont une certaine recherche, mais qui n'ont pas les moyens ou la capacité de s'ouvrir. Voilà, les données, des pistes. Il donnait des pistes, Saint Grégoire Palamas, à mon avis. À un moment donné, il a fait un cercle de prières ici haste, à Thessalonique, si je ne me trompe pas, ou à Constantinople, un cercle qui était ouvert un peu aux laïcs. Il y avait des femmes là-bas qui participaient à ces réunions. Il pratiquait tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais pas. La vertu aussi, l'insistance sur la vertu et l'écartement du péché. Je considère que c'est la base de tous ces discours. L'écartement du péché. Toutes les sortes de péchés qu'il y avait à l'époque et qui nous avons maintenant très, très bien aussi. Nous aussi. Le carême aussi, il insiste sur les choses formelles un peu, attention. Le jeûne. Il insiste sur les choses un peu formelles. la forme qui parle du fond. Oui. Oui. Peut-être je dirais des choses basiques, mais ça se trouve dans ces homélies. On ne peut pas prier sans jeûner. On ne peut pas prier d'une manière correcte sans faire le jeûne, par exemple. Peut-être il avait à son temps des gens qui essayaient d'avoir des expériences mystiques sans les choses basiques. Non, il dit, commencez avec le jeûne. C'est difficile, c'est, voilà, vous ne mangez pas. Le jeûne n'est pas un but en soi, mais le jeûne, c'est un instrument qui vous aide à progresser. Moi, je dis ça à mes fidèles, donc j'évite parfois de me répéter maintenant. Parce que je les assassinais à mon tour. En leur disant, voilà, le jeûne, c'est important, c'est un instrument, c'est bien de l'assumer, de le faire, de progresser. Le jeûne, voilà. J'ai pas des autres. Il faut lire un peu ces homélies, mais il n'y a pas une bonne traduction encore en français. Il y a une très bonne traduction en anglais. Bien sûr, en grec, pour ceux qui puissent y accéder. Et en italien aussi. En italien, il y a une très 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 bonne traduction de ces homélies. Et on essaie aussi en roman d'avoir, mais l'édition critique, c'est pas une édition critique, l'édition qui est aujourd'hui, c'est désastreuse, donc on ne peut pas l'utiliser d'une manière correcte. Voir là-bas.
Tenez-moi l'autre micro, je vais faire circuler celui-là.
On réduira le temps du repas.
Voilà, gardez celui-là.
Merci Père Roger pour ce bel exposé sur Grégoire Palamas qui nous fait la synthèse de toute la tradition hésychaste et qui est vraiment le courant essentiel dans la tradition orthodoxe. Je voudrais juste ressouligner deux choses. Premièrement, le fait qu'il n'a pas été fait mention de l'image de Dieu. Parce que si l'être est bon, c'est parce que l'être est créé à l'image de Dieu. Et que cette image est permanente, elle est agissante en nous, et cette image, les pères l'ont identifiée au nous, justement. Et donc la purification du nous, c'est effectivement pour faire resplendir l'image de Dieu qui est en nous, et dans ce sens, au niveau anthropologique, le fond de l'être, il est image de Dieu. Donc effectivement, il n'y a pas de mal qui soit ontologique, c'est-à-dire qui soit dans la réalité de l'être. Et comme l'a dit Grégoire Palamas qui a été cité, le mal est une perversion de ce qui est incident en nous et donc ce qui est déposé en nous en tant que vertu naturelle. Et je crois que c'est très important de rappeler effectivement que nous avons en nous les vertus naturelles. Il ne s'agit pas de conquérir quelque chose qui serait en dehors de nous, mais de mettre en mouvement, laisser l'Esprit Saint venir dynamiser toutes ces forces de vie, mais aussi ces grâces, ces vertus naturelles qui sont en nous, dans ce souffle de l'Esprit. Et d'autre part, deuxième point...
Philippe, avant de passer au deuxième point, oui, c'est vrai, il y a deux semaines, depuis quand j'ai quitté un peu le texte, c'est aussi obsessif. « Katikona toteu » Après l'image de Dieu, on trouve ça, je trouvais dans les triades, mais je suppose que c'est partout. Katikona te tue, après l'image de Dieu, retrouver cette image de Dieu.
Parce que, alors, en fait, tout le dynamisme de la vie spirituelle, c'est effectivement de faire resplendir l'image, c'est ça le sacrement du baptême, faire resplendir l'image pour aller vers la ressemblance, c'est-à-dire pour entrer dans cette synergie, cette coopération divino-humaine, et devenir co-acteur avec Dieu de notre propre sainteté, notre propre participation à la vie divine. Alors, deuxième point, c'est le fait que le péché vient par les circonstances. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord. Le péché Et finalement, nous sommes sollicités par des circonstances et des événements. Mais le péché n'est pas lié aux événements, aux circonstances, mais à notre attitude, c'est-à-dire à notre dimension pervertie face. Voilà, et c'est là où, en fait, soit nous faisons des épreuves, des occasions de croissance spirituelle, soit des occasions de chute. Mais ce n'est pas l'événement lui-même qui est cause de notre chute, c'est comment nous répondons, c'est-à-dire notre liberté, la mise en mouvement de notre liberté face aux événements, face à l'autre, face aux circonstances, etc. Je crois que voilà. Donc...
Non, j'ai loupé ça parce que j'ai écrit dans mes feuilles, mais dans la comme ça. Oui, bien sûr que c'est l'attitude de l'homme face aux circonstances. C'est toujours l'homme qui agit. C'est lui le responsable. Voilà. C'est lui qui peut repousser ou accepter les circonstances. Voilà, mais bon, j'ai balayé un peu et ça. C'est bon. C'est la responsabilité qui tombe toujours dans tes actes. Ton fond ontologique reste bon, mais c'est tes actes qui sont pervertis ou non, que tu acceptes ou non. Bon, finalement, c'est toi qui prends la décision, c'est toi le
ça,
coupable.
Voilà.
Oui.
Donc, nous sommes responsables de notre attitude et effectivement du fait que nous faisons des circonstances, quelquefois, des occasions de réactivité, de colère, et ça, ces mouvements viennent de nous. Voilà. Et donc, et je trouve en finale que toute la dimension anthropologique est magnifique, hein, de dire que l'homme n'est complet que s'il est dans le souffle du Saint-Esprit. C'est-à-dire, comme le dit Saint-Irénée de Lyon, l'homme n'est complet que lorsqu'il est corps, âme, mais aussi pneuma. C'est-à-dire pas esprit au sens de nous ici, mais esprit au sens où le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit, et c'est dans le souffle du Saint-Esprit que l'homme devient complet. Ça veut dire que nous ne sommes pas complets, mais nous sommes en voie d'accomplissement, de complétude, et donc ce sera quand nous serons remplis du Saint-Esprit que nous serons vraiment des êtres humains.
Merci Père Philippe. Voilà, peut-être serait bien de se présenter, parce que je crois que ces réunions, c'est aussi d'avoir pas seulement des visages, mais aussi des noms et des prénoms. Voilà,
des prénoms. Oui, Jean-Loup. Merci Père Roger pour... parce que bon, je peux parler comme mon nom, hein, mais c'est ce qui m'a attiré dans l'orthodoxie, c'était cette vision d'être en prière permanente et dans une relation personnelle avec un Dieu qui lui-même est une personne. J'aurais deux questions, en fait. La première, ça concernerait la pensée. J'aimerais avoir, si c'est possible, une explication plus précise, parce qu'en fait, penser, de temps en temps, dans des... littérature orthodoxe, en fait, c'est dénommé comme le malin. Ça veut dire que c'est, en fait, ce qui tourne sans arrêt dans nos têtes et quelque chose sur lequel on doit peut-être lutter ou tout au moins, évacuer, justement par la prière qui évite justement d'être dans cette mécanique permanente de pensée. Donc, je peux supposer qu'il s'agit d'une autre pensée, d'une pensée divine, d'une pensée intuitive, d'une pensée qui vient de l'âme, puisque c'est elle qui reçoit, comme il a été dit, c'est elle qui reçoit la possibilité de recevoir cette grâce. Alors ça m'a un petit peu surpris, parce que j'ai toujours compris, mais bon, que la grâce, on la recevait dans le cœur, hein, dans l'union, la prière de Jésus, la prière du cœur. Donc voilà, j'aimerais une petite précision sur la pensée, ça c'est ma première question, et la deuxième c'est une définition plus précise du nous.
Merci. Mais c'est ça, la deuxième question répond à votre première question. Quand Saint Grégoire Palamas dit que la pensée c'est le trône de la grâce, il se réfère à nous. Et définir le nous, je ne suis pas capable. Parce que c'est assez élargi. Je me rappelle que Saint Grégoire Palamas, il dit que le nous, il y a certains pères qui l'identifient avec le cœur, les autres qui identifient avec la pensée, mais pas la pensée, le centre de pensée, si vous voulez, mais je dirais la partie le plus intime de l'homme. Si Père Philippe peut compléter un peu, mais j'insisterai, la pensée, le nous, éliminons le mot pensée, nous. Le nous, c'est la partie le plus intime de l'homme, où il y a la chirurgie, la vraie chirurgie pneumatologique, où la grâce travaille d'une manière très pure, elle peut s'installer d'une manière très pure. Mais nous parlons, et avec ça je crois qu'il faut finir avec la question, parce que c'est très développé, toute cette perspective patristique sur le nous. Le nous est la partie le plus intime de l'homme, de la personne humaine. C'est là-bas, c'est le trône de la grâce. Que ça soit parfois identifié avec le cœur, que ça soit parfois identifié avec la pensée même, moi je crois que les opinions des pères ils sont pas des définitions. Ils disent pas voilà c'est ça le nous, parce que tu peux pas le décrire. C'est assez intime, assez personnel et assez délicat de le définir que tu peux pas le définir. Donc tu restes avec cette idée, la partie le plus intime de la personne humaine, où la lutte elle est très fine pour ciseler, pour purifier les pensées proprement dites, les pensées qui sortent de nous, les pensées de toutes sortes de pensées. Père Philippe, si vous pouvez m'aider un peu pour
voilà, l'essentiel a été dit. Simplement, j'aurais juste précisé petite chose. Donc, effectivement, il y a une identification du nous avec le cœur-esprit. En tout cas, Olivier Clément trouvait que c'était la meilleure façon de parler du nous, cœur-esprit. Mais qui dit cœur, ça veut dire que c'est pas dans la tête. Donc, c'est dans la profondeur. C'est pas quelque chose qui est ici, effectivement, qu'on peut situer dans le corps exactement, quoique les périsicastes quelquefois situent à certains endroits. Bon, enfin, bref, c'est pas ça. Mais le Christ nous dit que les pensées viennent du cœur. Ils disent pas qu'elles viennent de la tête. Elles sont traitées dans la tête, mais elles viennent du cœur, donc de la profondeur. Et donc nous disons du nous qu'il est effectivement identifié au cœur, qui est le centre du corps, le centre de l'âme. Et donc il est celui qui est effectivement un centre d'intégration de tout l'être humain, et effectivement la plupart des pères en tout cas l'identifient avec l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est vécue comme un miroir. C'est là où se reflète l'image de Dieu. C'est-à-dire, et donc il faut purifier le miroir. Donc toute la dimension et l'accent qui a été mis sur la purification, essentielle, incontournable, toute la praxis, la pratique, etc. Parce que si on ne purifie pas le cœur, on peut même déformer les paroles de l'Évangile, même déformer les paroles de Dieu. Et c'est cela qui est la perversion terrible, c'est que effectivement on l'entend mal, on l'entend d'une manière pervertie. Donc il s'agit de purifier le cœur, et c'est ça toute la tâche fondamentale. L'œil de l'âme, voilà, l'œil de l'âme. Donc pour voir correctement, il faut enlever la poutre dans notre œil. Et enlever la poutre, c'est la première partie du chemin. Et donc par l'accomplissement des commandements, par la pratique des vertus, etc., tout ce qui a été dit là. Voilà, et donc tout l'accent est mis sur cette dimension. Et le nous, c'est au sein de l'âme, au cœur de l'âme, trois dimensions, capacité de silence, capacité de conscience, capacité de détermination. On trouve ici toute une trilogie en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, silence, le Fils, conscience, parole, et l'Esprit, détermination, toute la puissance irascible. Voilà. Donc nous avons toute cette dimension qui est inscrite en nous, et c'est par la puissance du nous que nous pouvons effectivement transformer tout notre être. Métanoïa, conversion, vient de méta, noia étant une conjugaison du nous, justement, retournement du nous, c'est-à-dire se tourner vers Dieu alors que nous étions tournés vers le monde. Donc, effectivement, le nous a une place ici centrale.
Oui, justement, dans ce processus de transfiguration, là, concernant plutôt des questions de vocabulaire, alors peut-être on peut pas traduire nous, par contre tu as parlé de transfiguration des sens, et je faisais le parallèle avec une ode de Pâques où si je me rappelle bien, purifions nos sentiments et nous verrons le Christ ressuscité. Donc là, il y a la question des sentiments, des sens, etc. Donc est-ce que tu voudrais bien apporter un éclairage sur ces choses-là, sur le sens, et qu'est-ce qu'ils sont, et qu'est-ce que ça signifie purifier les sens?
Saint Grégoire Palamas, il dit tout simplement, nous, on voit avec les yeux les choses créées, avec les mêmes yeux, c'est-à-dire la vue, avec le sens de la vue, nous voyons des réalités qui dépassent les choses créées. Parce que cette vue a reçu des capacités. Nous, on voit avec nos yeux, pas simplement avec nos yeux, mais nos yeux, notre vue est participante à cette réalité. Donc vraiment, il parle de sens corporel, pas de sentiment, de sens corporel, de vue, de sensation, même du goût, même de tout ça. Tout ça est redirectionné et reçoit une capacité supplémentaire, si tu veux. Une capacité supplémentaire d'agir et d'entrer en contact avec des réalités qui sont au-dessus du cadre commun de choses qu'on peut recevoir. Le sentiment, qu'est-ce que je peux dire? Oui, peut-être, il peut être transfiguré, mais le sentiment, ce n'est pas une capacité de perception. Il parle, Saint Grégoire Palamas, il parle exactement de capacité de perception. Okay, vue, sensation et les autres, les cinq sens, si tu veux. Le cinq sens. Oui, le sentiment, il peut être transfiguré, mais il met pas assez d'importance sur le sentiment que sur les autres cinq sens.
C'est le père Joël. Père Joël, oui. Pour rebondir à ce que tu disais concernant la pensée, qu'est-ce que c'est que la pensée? À travers mes lectures, je me suis toujours attaché à me demander où je suis. Et il me semble avoir discerné que, pour faire la différence entre les pensées au niveau de l'âme ou les pensées au niveau du nous, il me semble avoir compris que, au niveau de l'âme, il va y avoir un temps entre la pensée et la décision, entre la pensée et l'acte.
Transfiguration.
Ouais. Quel rapport entre les icasmes et la locomotive?
Ça.
Ça, c'est des chemtrails, ça. Donc,
au niveau... Ça fait partie de l'expérience.
Voilà. Au niveau de... Pour la pensée, au niveau... il me semble avoir discerné, pour savoir si c'est au niveau de l'âme ou du nous, s'il y a un temps entre la pensée et l'acte, ça va plutôt être au niveau de l'âme. S'il n'y a pas de temps, c'est-à-dire s'il y a une réaction immédiate, une action immédiate entre la pensée et l'acte, c'est au niveau du nous. Et ensuite, une autre chose, pour mieux définir la pensée, j'ai envie d'employer le mot travail. Parce que par exemple, le père Placide de Seille, il parle de deux énergies au niveau de l'âme. Il emploie ces deux mots, concupiscible et irascible. Concernant le concupiscible, lorsqu'il est blessé par le péché, cela va se traduire par toutes sortes d'émotions et de sentimentalités, et réorienter vers notre communion avec Dieu, cela va se transformer en compassion, miséricorde, par exemple. Et l'irascible perverti, détruit, désorienté par le péché, l'irascible, ça va être la colère, par exemple, réorienté vers Dieu, cela va être une sorte de virilité spirituelle, dynamique. C'est pour cela que, pour peut-être mieux définir qu'est-ce que la pensée, personnellement, j'ai envie d'employer le mot travail, conscient, travail conscient.
Je considère que c'est très important d'insister sur ces notions de nous, et de l'esichas, mais qui tiennent de cette chirurgie spirituelle, parce que quand nous recevons dans des confessions, nous devons être très attentifs où il y a le problème. C'est un problème superficiel ou vraiment c'est un problème qui va un peu plus loin. Pour ça, j'ai tenu un peu de faire cette radiographie palamite, parce qu'elle me parle beaucoup, à moi comme prêtre, et dans ma perspective pastorale, elle me parle beaucoup. Vous savez tous qu'il y a toujours le risque de psychologiser les choses, de tomber dans une analyse plutôt psychologique que pneumatologique. Et je crois que la ligne, elle est très fine. Elle est très fine. Moi, je ne suis pas un expert, mais je me rends compte qu'il y a une ligne. Une ligne qui doit être très bien surveillée. Et il ne faut pas faire rabat. Il ne faut pas baisser les bras devant cette défi. De ne pas encourager trop les glissements qui tiennent de maladies, comment dire, ou des problèmes qui tiennent de notre psychique, psycho, et de voir un peu plus loin le fond réel du problème. Donc pour ça, je crois que l'enjeu pas seulement de Saint-Grégoire de Palama, mais de tous les autres saints qui ont fait cette chirurgie spirituelle, l'enjeu est très important pour nous maintenant de bien discerner où se trouve vraiment le problème avec nous tout d'abord et avec les autres qui viennent confier leurs pensées et leur âme, en fait.
S'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas.
Une toute petite précision, à un moment tu as utilisé l'adjectif surnaturel, qui a une connotation un peu, comment dire, scolastique. Quel est le terme? Je crois que tu l'avais accolé à grâce. Mais quel est le terme
utilisé? C'est la traduction. Oui, c'est la traduction de Jean Meindorf, de Père Jean Meindorf.
Si c'est surnaturel, ça ne concerne pas.
Non, c'est des choses qui ne tiennent pas de la nature créée, disons. Oui. Oui.
Père Placide, il reprend le surnaturel aussi. Hein. Alors, il y a effectivement cette discussion de dire que surnaturel vient du scolastique. Donc, effectivement, il y a une intrusion dans la tradition orthodoxe. Donc, pour nous, nous disons ce qui a été très bien dit tout à l'heure par Père Roger, c'est le fait qu'il y a les vertus naturelles. Et ça, je crois que c'est très important de le redire, que parce que chaque être est créé à l'image de Dieu, il porte en lui la beauté, la joie, la santé, la paix. Tout cela est inscrit en nous et qu'il s'agit de le faire resplendir. Mais pas par nous-mêmes, on ne peut pas. Et là arrive ce qu'on appelle le surnaturel, mais ce qu'on appelle le surnaturel, dans la tradition orthodoxe, c'est la dimension de la pneumatisation.
Exactement.
C'est-à-dire que ce qui est surgrâce, ce qui est surnaturel, pardon, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en voie de pneumatisation, c'est-à-dire de spiritualisation par la grâce du Saint-Esprit, et qu'effectivement, l'Esprit-Saint vient dynamiser, purifier, spiritualiser, sanctifier notre être naturel. Et donc cette dimension-là, c'est toute la dimension de la théosis. Et la théosis, c'est le fait de cette pneumatisation, je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est-à-dire mais spiritualisation, c'est-à-dire la déification, c'est un peu comme, je dirais, l'aboutissement du processus, mais il y a un processus dans lequel nous sommes engagés, qui est un processus où nous nous ouvrons à la grâce, qui est effectivement pas de l'ordre de la nature, qui vient dynamiser, donc elle vient pas surajouter quelque chose, mais elle vient dynamiser les facultés qui sont déjà en nous, mais qui ont besoin de resplendir sur une dimension, je dirais, divine, puisque c'est de l'Esprit Saint dont il est question.
C'est pas pour le voter sur des mots,
mais oui.
Les mots qu'ils
utilisent nous conforment
à la situation. Oui, absolument.
Donc en grec, Mais c'est vrai que le mot surnaturel, je l'ai vu dans plusieurs écrits orthodoxes et qu'effectivement j'ai vu aussi un débat sur cette question-là. Donc il faut rappeler la spécificité orthodoxe, c'est toute la théologie pneumatique. Et là, nous disons, voilà, il y a l'être naturel créé corps, âme, esprit, mais alors corps, âme, esprit, nous. Et cet être naturel doit s'ouvrir progressivement au souffle du Saint-Esprit qui, lui, nous communique le Christ d'abord, puis ensuite qui vient dynamiser nos facultés naturelles et vient nous, peu à peu, nous donc transfigurer, nous déifier.
En grec, nous avons comme ça, c'est, je crois, physikos, ce qui appartient à la nature, hyperphysis, qui est pas surajouté, mais qui vraiment vient dynamiser, qui ne tient pas du cadre du physis, naturel, de la. Ah non, c'est des japonais. Mais si, hyperphysis, dans le texte, hyper.
Je peux vous poser une question, Henri. Comment ne pas être dans l'illusion lorsqu'on ressent des émotions de joie, ou les larmes qui montent, ou avoir un saisissement par rapport à...
Jouer dans l'émotion.
Je crois qu'il est question là de l'état d'âme,
des états d'âme,
qui nous paraissent parfois devoir durer tout le temps et qui en fait sont dans l'ordre du mouvant. Donc il ne faut pas y attacher d'importance, ni à une trop grande tristesse, ni à une trop grande joie, puisque, enfin, de cet ordre-là, puisqu'on est vraiment dans l'ordre du mouvant. Ce qui a trait au nous est du stable, et dans le stable justement. Donc ça nous permet d'avoir un certain recul et de voir bonhomme qui se débat avec ses états d'âme. On prend un peu de distance et on voit un peu comment nous grenouillons d'un côté ou de l'autre, mais sans apporter trop d'importance à ça, attacher trop d'importance à ces mouvements de l'âme.
Et aussi, une autre question. Vous savez, très souvent, on dit, tiens, ça, c'est un signe de l'Esprit Saint, où les anges sont avec nous, ils agissent, et quelquefois, il se passe des choses qui sont assez curieuses, et il y a des coïncidences comme ça.
Je peux vous répondre. Hier, j'ai lu Saint-Isaac le Syrien, qui disait, ne cherchez pas de signes. Ceux qui cherchent ça... Il y a un petit problème ici, qui voit partout des anges, qui voit partout des je sais pas quoi, des signes comme ça. Ça n'appartient pas à l'homme pneumatologique. Ça, c'est pour impressionner, mais c'est pas dans la qualité des choses elles-mêmes.
Une anecdote à ce sujet, c'est une personne que certains d'entre nous ont connue, qui priait devant une icône de la Mère de Dieu, avec insistance, donne-moi un signe, et la lampe à huile qui se trouvait juste au-dessus s'est détachée, et la personne en question était inondée, donc je ne sais pas. Donc il faut vraiment se garder des signes.
Une autre question ?
Je ne sais pas par quoi commencer. Oui, voilà, j'ai entendu donc certains prêtres dire la phrase « s'ouvrir à la grâce ». Alors, j'ai un petit souci de compréhension là-dessus. S'ouvrir à la grâce. Je voulais savoir comment on s'ouvre à la grâce. Est-ce que c'est par sentiment que... Est-ce qu'on peut s'ouvrir à la grâce, par exemple, par les sentiments ? Ou il y a une autre façon de... Voilà, c'est...
Très franchement, Thierry, là, je ne sais pas. On va discuter dans la confession pour l'instant. Je peux beaucoup théorétiser sur ça.
Si tu permets, Père Roger, je pense que la grâce et la vérité venue par Jésus-Christ, oui. C'est effectivement ce que tu disais au début, c'est s'ouvrir à Jésus-Christ, c'est ouvrir l'ouïe à ce que Jésus-Christ nous a dit. Tout simplement. Mais l'écouter, tout simplement, mettre en pratique. Il nous a dit, ne jugez point. Et il y a des gens qui m'ont dit, à partir d'un certain moment, j'ai plus jugé. Ils m'ont dit l'état de paix et de grâce qu'ils ont eu. Tout simplement de ne plus juger. Ou par exemple, quelqu'un qui m'a dit dans une confession, j'avais tendance de, un jour, quelqu'un m'a fait du mal, et j'ai réprimé, disons, la tendance de lui lancer une malédiction. Et là, il a reçu véritablement, en écoutant, parce qu'en ce moment-là, c'est la parole du Christ qui est venue dans la tête, qui a dit, il ne faut pas il faut toujours bénir et ne pas dire. Et c'est là qu'il a senti dans son cœur un apaisement, quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Vous voyez, donc la grâce nous est donnée, la connaissance du Christ nous est donnée en accomplissant ses paroles, comme disait Père Roger tout à l'heure, ce que disait Saint Grégoire Palamas. Donc c'est comme ça qu'on s'ouvre à la grâce. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ, nous dit Saint Jean l'évangéliste. Donc du coup, en s'ouvrant au Jésus-Christ, on s'ouvre à la grâce. Voilà, c'est double, c'est simple. S'il y a d'autres questions, voilà, je me suis permis de répondre un peu, d'aider Père Roger.
On a parlé très rapidement de la prière, hésychaste. Est-ce que un de nos amis roumains ici pourrait nous parler de l'expérience qui a eu lieu à Bucarest tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle le buisson ardent, Rugulaplin? Ça serait intéressant, peut-être, je ne sais pas, l'un d'entre vous quand même qui est un. Pourquoi je vous demande ça? Parce que ça nous aiderait beaucoup. Pour nous faire comprendre que cette prière hésychaste est accessible, enfin accessible. Chacun est appelé à cela. Il y a eu une expérience extrêmement intéressante et plus qu'intéressante qui a donné des fruits remarquables au moment de la transition en Roumanie, enfin entre juste après l'arrivée, ou à l'arrivée des communistes au pouvoir qui ont persécuté. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous parler un peu de cela?
Comment dire, de la manière. On prenait un peu à dépourvu. Donc, c'était lié un peu aux conditions historiques, parce qu'à l'origine de ce mouvement, il y avait un grand père spirituel qui venait de Russie, qui a dû fuir la Russie et tout ce qui s'est passé là-bas. Et il est allé en Roumanie, au monastère de Cernica, je ne me rappelle plus son nom. Et autour de lui, c'était un très très grand père spirituel qui, depuis de longues années, il avait la prière du cœur. On a parlé de la prière hésychaste, on n'a pas nommé Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et autour de lui, il y a eu plusieurs intellectuels, parce qu'il y avait à l'époque une très forte recherche spirituelle de la part des intellectuels roumains, et autour de lui et aussi d'une autre figure très intéressante, le père Daniil Sandu Tudor. C'était un intellectuel, un poète, un journaliste très très virulent, qui par la suite est devenu moine et qui est mort en martyr dans les prisons communistes. Donc les deux ils ont, avec d'autres figures de l'Église, genre Père Staniloyer, Père Sofiane, donc se réunissaient. Il y a eu un cercle des prêtres, des religieux, mais aussi des laïcs qui se réunissaient à Bucarest, à l'intérieur du monastère d'Antim. Et voilà, il y avait régulièrement des conférences, mais aussi il parlait de la prière de Jésus. Et, enfin, c'était ce grand père spirituel, malheureusement je ne me rappelle plus son nom, qui parlait de son expérience, parce qu'on ne peut pas parler de la prière de Jésus sans l'avoir expérimenté, sans l'avoir vécu. Et ce qui est à retenir, si vous voulez, c'est qu'il y a eu, à partir de cela, c'est comme dans la nuit de Pâques. Vous voyez, il y a l'évêque ou le prêtre qui sort dans les ténèbres avec un cierge, et de cette lumière, par la suite, tout le monde reçoit la lumière sans qu'elle soit diminuée. En quelque sorte, c'était ce qui s'était passé au cercle du buisson ardent, à savoir qu'à partir de l'expérience de ce grand père spirituel qui venait de Russie, encore une fois, plusieurs personnes ont commencé, des laïcs, bien sûr, mais aussi des prêtres, des moines, ont commencé à mettre en pratique d'une manière très approfondie la prière de Jésus. Et ça a opéré, je dirais, un renouveau, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi des intellectuels qui ont commencé à exprimer dans leurs écrits, ou des poètes, par exemple le père a nommé un grand poète martyr aussi, Radugir, à exprimer dans leurs écrits intellectuels, mais aussi dans la littérature qu'ils écrivaient, les idées spirituelles qui menaient, si vous voulez, à une transfiguration de l'être humain à travers la prière de Jésus, à la grâce, comme disait Père Philippe, la grâce du Saint-Esprit qui vient nous renouveler. Le problème, c'est que bien sûr, cela a déplu au régime nouvellement installé en Roumanie, et tous les participants buisson ardent, à ce cercle, si vous voulez, à ce mouvement, ont été par la suite enfermés, jugés, condamnés à de longues années de prison. Certains, encore une fois, genre le père Danil, qui était l'un des promoteurs de ce mouvement, sans doute tout dehors de son nom d'intellectuel. Certains d'entre eux, à l'instant de ce grand intellectuel devenu hiéromane et ermite, sont morts dans les prisons communistes. Mais c'est un point de référence, encore une fois, pour tout ce qui était la spiritualité, le renouveau philocalique, en quelque sorte, le renouveau hésychaste en Roumanie. Mais encore une fois, moi, ce qui m'a touché, si vous voulez, et je l'ai vu ça aussi dans l'histoire de la philocalie, j'ai étudié un peu cette problématique, la philocalie qui a été traduite en roumain au XXe siècle par le père Dumitru Stăniloae, c'est qu'en regardant, il y a eu une richesse du monde orthodoxe, parce que, par exemple, là, encore une fois, c'était un hiéromane qui était lié à la tradition des monastères d'Optino, voilà, qui était venu en Roumanie et qui a apporté ce renouveau dans la spiritualité roumaine. Il y a toujours, à travers l'orthodoxie, parce que souvent, il y a une tendance malheureuse, et de toute façon pas du tout saine, de se délimiter des autres orthodoxes. Les autres sont d'un autre patriarcat ou je ne sais pas quoi. Nous, non, c'est une grande erreur. Et malheureusement, bon, au niveau humain, on le voit quand même ça existe. Au sein de l'orthodoxie, de l'église orthodoxe, il y a des interférences entre les Russes, les Grecs, les Roumains, les diverses traditions orthodoxes, et il y a une richesse extraordinaire qui nous enrichit tous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, pardonnez-moi, je n'avais pas préparé, mais voilà quelques mots que j'ai pu dire. Juste pour finir, c'est qu'à partir de cette expérience du buisson ardent, ça a aidé aussi le père Stăniloae, qui a été aussi l'un des promoteurs des écrits, enfin, de Saint-Grégoire-Palama. Saint-Grégoire-Palama, il faut le dire, il a été oublié pendant des siècles, et ses écrits. Et c'était au XXe siècle qu'il y a eu deux ou trois figures, le père John Meyendorff, le père Stăniloae, et ici, toujours ici en Occident, dans une moindre mesure, mais toutefois, le père, c'était un père d'origine russe, ça m'échappe son nom, qui était Kern. Cyprien Kern, voilà. Mais c'est pendant des siècles on a oublié que ce que Monsieur Marc a dit tout à l'heure, c'est que c'est pas optionnel, on n'a pas le choix. La déification est la voie unique pour tout, à laquelle nous sommes tous appelés. Eh bien, cette tradition hésychaste a été oubliée pendant des siècles, enfin oubliée. Je parle de Saint-Grégoire Palama, non pas de la tradition qui était vécue dans des monastères, moins au niveau des laïcs, et c'est très important. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, Père Roger. D'ailleurs, un autre saint, Nicolas Cabasila, avait beaucoup insisté sur cet aspect, le fait que la déification n'est pas l'apanage que des moines, que les laïcs aussi nous sommes tous appelés à nous déifier. Voilà. Donc,
parce qu'il y a une deuxième partie du thème qui s'appelle la prière hésychaste aujourd'hui. La prière hésychaste aujourd'hui. Donc, sachez qu'à Essex, en Grande-Bretagne, autour du Père Sophronie, on a créé des groupes de prières qui sont après exportés ou importés en France, qui s'appellent les groupes de la prière du Jésus, autour de la prière du Jésus, qui a un ordre spécial, et qui, sachez qu'il y a des groupes en France, dans certaines villes, dans certaines paroisses, rattachées à certaines paroisses, qui, autour de cet ordre instauré par le Père Sophronie, prient avec cette prière de Jésus. Donc, pour commencer un peu le débat pour la deuxième partie du thème d'aujourd'hui, la prière hésychaste aujourd'hui. Donc, il y a des, je ne sais pas si peut-être à Bordeaux ou ailleurs, il y a des groupes comme ça, donc pour la prière hésychaste. Voilà. Voilà. S'il y a des questions encore, sinon, on peut passer à table. Ben, c'est ce qui était prévu dans le programme. C'est... On peut rester encore.
Hein. Juste, pardonnez-moi. Il y a de longues années, il y a une douzaine d'années, je suis allé en Angleterre, enfin là c'est une petite histoire, je ne vais pas raconter Marie Monseigneur, mais c'est juste que c'était tout à fait par hasard que je suis, sans être programmé, je suis arrivé dans ce monastère. Et j'ai été très impressionné parce que je ne savais pas qu'ils avaient l'habitude de prier au lieu de faire les vêpres par exemple. Ils priaient pendant 2 heures avec la prière de Jésus. Ce que je voudrais donner comme témoignage pour moi-même, c'est que, en ce qui me concerne, c'est que, bon, j'ai passé quelques jours là, mais le fait qu'on était tous dans l'église, chacun assis sur une petite chaise, voilà, une petite chaise ou sur un banc, et à entendre une seule personne de l'église à dire à haute voix, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, voilà, c'était une expérience très forte, et en moi-même, ça s'était imprégné. Donc, je me suis retrouvé par la suite, attention, je ne suis pas un hésicaste, et malheureusement, pas quelqu'un qui pratique la prière de Jésus. Mais à partir de cette expérience, qui n'était pas programmée encore une fois, je suis tombé par hasard, je suis arrivé par hasard dans ce monastère, je me suis retrouvé, et depuis des années, quelquefois, je retrouve la prière qui se dit, non pas en roumain, non pas en français, mais en anglais, comme je l'entendais dans ce monastère, oui. C'était une expérience très forte. Donc vous voyez comme lorsqu'on prépare les prosphores sur la pâte, on met le seau, voilà, et ça reste là. Et c'est pour cela que je pense que ce qui était au Buisson Ardent, à Bucarest, c'était aussi cette expérience des prières, quelqu'un qui priait, parce qu'il y avait aussi des conférences spirituelles, mais aussi il priait. Et cette transmission, si vous voulez, la prière, et des prières en groupe. Donc, il y a un qui le dit à haute voix, et puis les autres qui entendent. Et on a vu l'année dernière aussi, au Mont Athos, dans un skit, les moines avaient préféré de ne pas faire les matines, mais comme préparation de dire, avant la divine liturgie, pendant une heure, la prière de Jésus. Et il y avait dans notre groupe un jeune français catholique, et qui a dit de tout ce qu'il avait vécu. Il y avait des beaux offices dans les monastères attonites, et bien il a dit que ce qui l'a impressionné le plus, c'était cette prière, cette expérience de la prière de Jésus.
Je peux rajouter aussi mon expérience personnelle. La première fois où je suis allé au centre à Sainte-Croix, puisqu'avant d'aller faire un pèlerinage, on m'avait demandé de venir, de participer à un stage, et j'ai commencé par la prière de Jésus grâce au Père. Et c'est un peu comme tu disais, Père Nicolas, c'est le sceau. Voilà, et la prière, ben, quelquefois, elle monte naturellement. Et
il y a une transmission, j'ai pas dit ce mot, il y a une transmission parce qu'on l'apprend des autres, même si on connaît, on a lu des livres et tout, mais ça vient comme dans la tradition vivante de l'Église, c'est une transmission. On était là, et c'était là, j'avais eu beau à lire d'autres livres sur la prière de Jésus, c'était là dans l'expérience vivante de ce qui se passait au monastère du Saint-Jean-Baptiste en Angleterre, que la prière s'était réellement transmise dans mon cœur, autant qu'elle l'est, mais très peu, mais quand même.
Oui, moi aussi, je suis passé aussi en Angleterre. Ce qui m'avait impressionné, c'était dans l'obscurité. Alors là, bon, j'étais avec un ami anglais qui était catholique, il a pris peur, il est parti. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui.
Avec ou sans moquette.
Juste un petit mot, parce que effectivement c'est l'heure d'aller manger, j'ai bien compris, monseigneur. Moi ça m'interpelle beaucoup aussi, ces groupes de prière hésicast. J'allais y venir. Quels sont les... Pardon. Ça passe pas, hein? Quelles sont les conditions pour créer un groupe de prière hésicast? Je dis ça pourquoi? Pour avoir un peu traîné mes guêtres dans certains groupes hésicast. Je sais qu'on peut rassembler tous les éléments techniques de la prière hésicast. Ça ne fait pas la prière hésicast. Prière du cœur, pardon. Prière de Jésus. Ça fait... Entendu. Prière de Jésus. me semble que ce qui compte, c'est plutôt une bénédiction, parce qu'on peut rassembler tous les éléments techniques en termes de respiration, de posture. Je crois que ça ne donne pas. Et c'est une expérience aussi qui a montré pour avoir un peu, entre guillemets, erré dans certains groupes. Je crois que cette dimension-là... Donc, quels sont les groupes qui sont effectivement bénis par la métropole, tout simplement, où on peut se rendre? Père Philippe, tu es là, donc j'ai bien compris. Mais c'est ma question. Voilà. Je vous laisse répondre, Monseigneur, parce que c'est ma question.
Je me demande si le père Sophronie, il me semblait d'avoir lu ça, qu'en fait, il y avait quelque chose qui était important dans ces groupes, c'était l'unité de foi. L'unité de foi. Alors je sais, voilà, je soumets ça parce que je pensais que c'était le père Sophronie qui lui-même notait cette chose-là.